Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. On parle déjà du Russia Gate ou du China Gate, des élus européens d'extrême droite accusés d'espionnage ou d'avoir été des agents d'influence pour le compte de Pékin ou Moscou. Certains sont soupçonnés d'avoir touché de l'argent en échange de leur bienveillance. Ces affaires tournent au scandale dans les instances européennes, alors même qu'une résolution est votée aujourd'hui même au Parlement européen sur les ingérences étrangères. Le sujet a été évoqué évidemment, par le président de la République. Aujourd'hui, dans son discours à la Sorbonne, sur lequel nous reviendrons longuement, Emmanuel Macron appelle à sortir, je cite, de la naïveté et à lutter contre cette propagande qui déstabilise nos démocraties. À quelques semaines seulement des européennes, la menace est prise au sérieux dans toutes les capitales. En France, le candidat Glucksmann en a fait les frais, accusé dans des vidéos réalisées parties de Chine d'être un agent de la CIA, Russie, Chine, qui veut torpiller les Européennes? C'est la question que nous posons ce soir. Avec nous pour en parler, Jean-Dominique Giuliani, vous êtes président de la Fondation Schuman. Je cite l'état de l'Union 2024, le rapport Schuman sur l'Europe, publié aujourd'hui aux éditions Marébé, avec notamment les interviews exclusives d'Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen. Avec nous ce soir, Jade Grandin de l'Éprevier, vous êtes correspondante permanente à Bruxelles pour le journal L'Opinion. Je renvoie à votre article intitulé Sorbonne 2, les Européens curieux mais sceptique sur les nouvelles ambitions d'Emmanuel Macron. Isabelle Lasserre, vous êtes correspondante diplomatique pour Le Figaro, à la une aujourd'hui européenne. Macron entre en campagne pour sauver son camp. Enfin, Guillaume Daret, vous êtes chef adjoint du service politique de France Télévisions et vous avez suivi attentivement le discours d'Emmanuel Macron. Bonsoir à tous les quatre. Bienvenue dans ce C'est dans l'air en direct. Je voudrais qu'on commence peut-être avec vous, Jade, sur ce qu'on appelle le Russia Gate et le China Gate. De quoi parle-t-on réellement?
On s'est rendu compte avec plusieurs affaires récemment que des puissances étrangères essayaient d'influencer, voire d'ingérer dans la politique de l'Union européenne. Ce qu'il faut rappeler, et que peut-être on n'a pas forcément en tête, c'est que le Parlement européen est une institution qui est très ouverte, qui se définit comme très ouverte en disant que les eurodéputés vont discuter avec tous ceux qui veulent parler avec eux, avec les entreprises, les associations, les diplomates. La question, c'est quand est-ce que l'influence étrangère qui est acceptable, c'est-à-dire si vous avez un diplomate chinois ou russe qui vous appelle, vous prenez l'appel, c'est intéressant de voir ce qu'il a à dire. Quand est-ce que ça devient de l'ingérence? Et en fait, ce qu'il y a eu récemment, pas seulement avec Chine et Russie, mais aussi avec le Qatar, tout a commencé un peu avec le Qatar Gate, on s'est rendu compte que peut-être qu'on était un peu naïfs dans les institutions européennes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de règles qui encadrent, qui vérifient ce que font exactement les eurodéputés. Et on s'est rendu compte que des puissances s'en servaient pour non pas seulement influencer ces responsables, mais les corrompre, en fait. On parle vraiment de corruption d'argent qui a été détournée. Et on s'est rendu compte aussi que cette corruption concernait plutôt des groupes d'extrême droite et d'extrême gauche.
Et en Allemagne particulièrement, cette affaire prend un tournant très politique. Le ministre de l'Intérieur ce matin allemand a affirmé qu'il s'agissait d'une affaire très importante, puisque la tête de liste de l'AFD, on l'a appris, a été interrogée par le FBI en décembre, et il est accusé d'avoir touché de l'argent de la Russie.
Et son assistant
de la Chine.
Et lui est incarcéré, d'ailleurs, et l'affaire est en jugement. Alors on ne sait pas encore la réalité, l'ampleur de tout cela, mais pour que les Allemands réagissent comme ça, il y a incontestablement des éléments très sérieux qui laissent penser qu'il y a une véritable ingérence. C'est-à-dire plus qu'une prise de position. C'est-à-dire des choses sournoises, des papiers glissés, de l'argent peut-être échangé, etc. Donc c'est très grave. C'est à cause, comme le disait Jade, de l'ouverture très grande voulue par les institutions européennes. Mais je dois dire que les États eux-mêmes ne sont pas épargnés. En Allemagne, il y a eu des affaires importantes. Au Royaume-Uni, en France, il y a quand même des élus qui sont mis en examen, monsieur Mariani et d'autres, etc., pour leurs interférences avec la Russie.
C'est inquiétant que ça arrive avant les européennes.
Je crois que c'est un révélateur parce que l'ampleur s'est accrue. Voilà, ouais. L'ampleur des ingérences, des pressions. Je m'étais permis une confidence ici en vous disant qu'on la sent. On la sent partout, dans toutes les institutions, peut-être aussi dans les rédactions, j'en sais rien. Ouais. Mais on sent qu'il y a des pressions pour diviser. Diviser les nations, diviser les Européens et mettre... jouer le chaos, en réalité.
Et on précise que ce n'est pas juste une façon de dénoncer ce qui se passe. En Belgique, il y a une enquête.
En Allemagne, une enquête.
En Allemagne, il y a une enquête. Oui, et justice s'est saisie avec certains partis du Parlement européen qui disent qu'il faut absolument avoir les résultats de cette enquête avant les élections européennes. Isabelle Lasserre.
Intéressant de voir qui a voté et qui n'a pas voté au Parlement européen.
Oui, parce qu'on le disait, je le disais rapidement en débutant cette émission, c'est un sujet d'actualité, puisqu'en ce moment, au Parlement, on vote... une résolution sur les ingérences étrangères.
Alors, il y a une accélération aujourd'hui, notamment de la part de la Russie, hein, qui a mis tous ses services de sécurité, plus d'autres services privés, sur l'affaire des ingérences extérieures, avec manipulation de l'information, avec divulgation de fausses informations, avec tamponnage, comme on dit dans les renseignements, hein, d'essayer d'acheter en fait des agents, en fait, enfin des agents entre guillemets. Et la Chine aussi a copié les méthodes de la Russie et a passé le coup d'accélérateur. Il est évident qu'à chaque fois qu'il y a des élections importantes, comme en France ou les élections européennes, les tentatives de ces pays-là se multiplie et la pression se fait plus importante. Pourquoi ? Parce que, d'abord, effectivement, comme Jean-Dominique l'a dit, il s'agit de diviser l'Union européenne. Ensuite, parce qu'il s'agit de pousser, en fait, ses candidats au Parlement européen, aux législatives françaises, en Allemagne, etc.
Donc ça veut dire que la Chine et la Russie ont choisi l'extrême droite. Ils ont choisi l'AFD en Allemagne, par exemple.
Oui,
clairement,
la Russie a toujours choisi l'extrême droite. Donc elle essaye de pousser ses candidats et de dévaloriser les autres. Et puis après, il y a aussi toute cette influence qui est plus pernicieuse, qui vise en fait à décrédibiliser la démocratie. Parce que le but de la Russie et de la Chine, c'est aussi en fait d'installer un ordre en fait international alternatif qui n'est pas celui de la démocratie. Mais quand même, aujourd'hui, effectivement, il y a une accélération et on a ouvert les yeux tardivement, mais ces histoires d'ingérence durent depuis extrêmement longtemps. Oui. Enfin, on se souvient quand même qu'un ancien chancelier allemand, Gerhard Schröder, a été patron du bord de Nord Stream en Russie. Ce qui est incroyable dans ces affaires aujourd'hui. On se souvient aussi que Fillon avait eu le même poste, mais en beaucoup plus petit, dans une entreprise... de pétrole. Ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est que l'Union... Parce qu'il y a aussi des cas en Autriche, en Hongrie, etc. C'est que l'Union européenne, et les pays aussi, les nations, n'aient pas pris des lois qui interdisent à des anciens responsables politiques de ce niveau d'en fait d'aller travailler pour une puissance étrangère qui nous a déclaré comme ennemis. C'est ça qui est absolument incroyable, c'est cette non-réaction. Alors aujourd'hui, on ouvre les yeux et on s'aperçoit...
Y compris au Parlement français, on a légiféré sur ce sujet-là.
Oui, mais c'est très bien. Et on s'aperçoit qu'en plus, on n'a pas forcément les moyens de répondre, parce qu'on n'a pas assez développé notre partie cyberdéfense, d'ailleurs, cyberattaque encore moins, et tout ça a pris du retard.
C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron dans son discours.
Il en a parlé, effectivement.
Heures,
hein. Il a dit qu'il fallait lutter encore davantage, ces moyens de lutter contre ces ingérences extérieures. Et il faut le dire, à l'approche des Européennes, c'est quelque chose qui inquiète vraiment le gouvernement et l'ensemble des partis politiques. Vous parliez de Raphaël Glucksmann, mais au sein du parti présidentiel Renaissance, un cadre du parti me disait à la mi-journée qu'ils avaient été obligés de renforcer l'ensemble de leurs services de sécurité informatique, évidemment, et numérique à l'approche des élections européennes, et qu'à la fin du mois de janvier, les services de l'État avaient eu un cas très concret qui leur avait permis de voir ce qu'était aujourd'hui l'ingérence étrangère sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils ont pu constater qu'à la fin du mois de janvier, il y a 4000 à 5000 comptes qui étaient sur les réseaux sociaux, X et autres, qui étaient des comptes qui se voulaient des profils de personnes, comme on avait dit pendant la crise du Covid, de première ligne, qui étaient soi-disant des infirmiers, des chauffeurs routiers et autres, très anti-gouvernement, très sur la ligne gilet jaune, et qui en une nuit sont devenus des profils d'agriculteurs. On était au tout début de la crise des agriculteurs, et en moins de 24 heures, ces 4500 à 5000 comptes sont devenus des comptes pro-agriculteurs, en lutte pour le droit des agriculteurs contre le gouvernement. Il dit, là, c'est véritablement la démonstration que c'était évidemment des faux comptes, des bots, comme on dit, et c'est ça, ce à quoi le gouvernement est attentif. Autre élément, ça peut paraître étonnant, mais l'entourage du président de la République me disait qu'il y a certains comptes qui, sur les réseaux sociaux, apparaissent comme des comptes de fans d'Emmanuel Macron, qui sont en réalité, quand les services creusent un peu, des comptes qui, au contraire, visent à ridiculiser le chef de l'État en mettant des contenus qui peuvent lui porter préjudice. Donc, ils sont vraiment extrêmement
inquiets,
attentifs.
Dites-vous, et ils ont visiblement, avec votre démonstration, des raisons de l'être, avec le risque, c'est le titre qu'on a choisi ce soir, que des puissances étrangères torpillent le scrutin.
En tout cas, qu'elles influencent le scrutin, c'est clairement ce qui est dit aujourd'hui dans l'entourage soit du président de la République, soit véritablement de tous les partis, parce que Raphaël Glucksmann est l'un des premiers concernés.
Vous voulez ajouter quelque chose ?
Oui, c'est pas seulement une inquiétude française, en fait, c'est dans toute l'Europe, c'est une inquiétude de la Commission européenne qui a envoyé des directives aux plateformes en disant il y a un vrai risque d'influence sur l'élection européenne, vous devez mettre en place plus de modération. Et l'exemple de la crise agricole est très bon, parce qu'en fait, la Commission européenne pense que la crise agricole a été une démonstration justement un peu des ingérences, de l'influence étrangère sur les réseaux sociaux pour, entre guillemets, pourrir, désolé du mot un peu vulgaire, le débat public en France. Et par exemple en Pologne, la Pologne et la France, c'est les deux pays où il y a eu le plus de manifestations agricoles, où ça a été le plus explosif. En Pologne, du jour au lendemain, ils ont des dizaines de nouvelles organisations prétendant représenter les intérêts des agriculteurs qui sont apparues. Donc il y a en effet, on se dit, tiens, comment la Russie pourrait influencer sur l'élection, puisque c'est nous qui allons mettre le bulletin de vote. Mais en fait, c'est très insidieux. C'est une manière de rendre le débat public toxique avec justement de l'influence sur les réseaux sociaux en polarisant la société.
Et avec des faux contenus, des contenus travaillés pour semer la discorde, donc corruption d'élus au Parlement, on en a parlé, faux sites de recrutement de l'armée française pour inciter des Français à s'engager pour aller combattre en Ukraine, fausse page de Radio France Internationale évoquant une épidémie de tuberculose en France à la veille donc des JO, chaque jour des offensives sur les réseaux traduisent cette guerre lancée donc par des puissances étrangères, l'objectif ternir l'image du pays, mais aussi peser, on l'a compris, sur le futur scrutin des européennes, avec certains candidats qui ont été largement ciblés. Anne Maquignon et Nicolas Baudry-Dasson.
Raphaël Glucksmann, agent de la CIA en Europe. La rumeur court sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines, mais il ne s'agit bien que d'une rumeur. Le candidat du PS aux élections européennes est en fait victime d'une campagne de désinformation lancée par des comptes liés à la Chine.
Moi, je suis la cible de ces régimes autoritaires parce que je les combats. Et je suis d'ailleurs sanctionné par le régime chinois de manière tout à fait officielle, moi et ma famille, depuis ma défense du peuple ouïghour. Et ce qui compte désormais, c'est de se réveiller. Moi, je veux réveiller l'Europe.
À moins de 50 jours des élections européennes, le sujet inquiète jusqu'au plus haut sommet de l'État français. Le gouvernement a recensé plusieurs ingérences numériques étrangères ces dernières semaines, souvent venues de Russie, comme ce faux site de recrutement de l'armée qui incite 200 000 Français à s'engager en Ukraine.
Nous avons aujourd'hui un retour sur notre sol par des chaînes de télévision, par les réseaux sociaux, par l'utilisation d'une forme de naïveté de nos règles qui était faite pour des acteurs qui respectaient en quelque sorte la civilité démocratique. Mais il y a un retour de la propagande, des fausses informations qui viennent bousculer nos démocraties libérales et prônent un autre modèle. Nous devons sur ce sujet lutter contre celle-ci, imposer la pleine transparence et surtout interdire ces contenus lorsqu'ils viennent déstabiliser des élections.
L'objectif est clair, éviter un scénario à la Slovaque. En septembre dernier, lors des élections législatives en Slovaquie, le candidat pro-européen Michal Šimečka a été victime d'un montage audio et odieux réalisé grâce à l'intelligence artificielle. Dans cette fausse conversation, on l'entend expliquer qu'il va truquer les résultats.
Combien de voix cela vous donnera-t-il ?
Je ne sais pas l'estimer car la participation des régions isolées est essentielle. Tous les paiements seront assurés par des petites mains. Les montants et la manière de vous les faire parvenir, sans que quelqu'un puisse les considérer comme des pots de vin, seront déterminés par le nombre de sièges que nous occuperons au Parlement.
48 heures plus tard, c'est le candidat populiste et pro-russe Robert Fico qui remporte le scrutin.
Cela ne s'est pas produit à l'improviste. Ça s'inscrit dans un contexte où l'on veut faire croire que les élections seraient illégitimes et truquées.
Pensez-vous que cela ait pu changer les résultats des élections ?
Impossible de le savoir. Nous avons des statistiques qui indiquent que rien que sur Facebook, il y a eu 100 000 vues. Cela a probablement eu un certain effet.
Au Parlement européen, Maximilian Krah, tête de liste dans la campagne des européennes pour l'extrême droite allemande, a un gros souci. Son assistant parlementaire est accusé d'être payé par la Chine. Des révélations fracassantes qui ont fait réagir le chancelier.
Nous ne pouvons pas accepter l'espionnage contre nous, quel que soit le pays d'où qu'ils viennent. C'est pourquoi il faut l'identifier et les responsables doivent être arrêtés et traduits en justice.
Directement visé par les propos du chancelier allemand, la Chine contre-attaque.
Nous espérons que les Allemands abandonnent la mentalité de la guerre froide et cesse d'utiliser le soi-disant risque d'espionnage pour se livrer à des manipulations politiques anti-chinoises.
Ces derniers mois, au moins 3 affaires de ce genre ont ébranlé le Parlement européen. Une formation obligatoire pourrait être mise en place afin de sensibiliser les eurodéputés à leur statut de cible potentielle.
Cette question de Jean-Pierre, les pays de l'Union européenne font-ils bloc pour affronter toutes ces tentatives d'espionnage et d'ingérence étrangère ?
Oui, je crois qu'il y a une vraie prise de conscience avec une coopération des services. Il y a aussi, au niveau de la Commission européenne, des instructions et des demandes envoyées aux grandes plateformes, comme Jade le rappelait tout à l'heure. Mais le président a dit ce matin que dans les grandes plateformes, il y a une quinzaine de personnes qui modéraient en français, par exemple. Donc, pour modérer des millions de choses, évidemment, on est débordé. Mais il y a une coopération qui se met en place. Il y a à Tallinn, un centre de l'OTAN qui est chargé spécialement de ça. Et la France a créé au Monténégro une cellule de cyberdéfense, si je puis dire. Tout ça reste un peu insuffisant.
Quel est le risque, Jean-Dominique Giuliani ?
Le risque, c'est que le scrutin soit faussé par des divisions artificiellement exaspérées, alors qu'on a l'habitude d'avoir des campagnes plutôt organisées entre partis qui débattent, des débats normaux, etc. Et que là, ça devienne passionnel, beaucoup plus passionnel que d'habitude.
Guillaume Daret, on a vu le scénario à la Slovaque, c'est-à-dire un deepfake, une fausse vidéo qui est balancée sur les réseaux sociaux à 2 jours du vote et qui renverse le scrutin.
C'est d'autant plus probable et possible dans une élection européenne où la mobilisation est plus faible. Et donc dès que vous déplacez un certain nombre de dizaines ou de centaines de milliers de voix par ce type de procédure-là, vous pouvez agir assez nettement sur le résultat final. Quand vous avez moins de 50% parfois des gens qui se déplacent aux élections, ça peut jouer d'autant plus. La crainte, elle est aussi que ça cible plus particulièrement, évidemment, les jeunes qui, en termes d'information, ne se nourrissent parfois uniquement que de réseaux sociaux. Et dans les différents partis politiques, on se dit finalement sur les plus âgés qui continuent d'être ceux qui se déplacent le plus pour aller voter, ce sont des gens qui s'informent pour l'instant de façon encore relativement traditionnelle par les journaux de presse écrite, la télévision ou la radio. Mais en revanche, il y a toute une population entre 18 et 30 ans qui ne s'informe plus que par les réseaux sociaux et qui donc se retrouve confrontée à ces deepfakes, à ces campagnes de désinformation. Et c'est parfois en se basant sur ce qu'elles vont voir passer qu'elles vont se prononcer le jour du vote. Donc c'est pour ça que ça peut vraiment faire bouger 3-4 points le jour du scrutin.
Mmh. Isabelle Lasserre.
Oui, bah, vous connaissez l'expression « calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose ». C'est-à-dire que même en fait, quand les fausses informations sont démontées et qu'il y a une communication qui vient contrer cette attaque, en fait, il en reste effectivement toujours quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas sensibles en fait à la correction de cette désinformation, surtout dans les milieux complotistes, etc. Donc c'est extrêmement problématique.
Alors parfois c'est très bien fait. Je voudrais que vous regardiez cette vidéo. Selon une note du renseignement français, les opérations de désinformation se multiplient vraiment en ce moment à l'approche du scrutin, mais aussi à l'approche des JO pour tout simplement déstabiliser le pays. On sait la polémique qu'il y a eu avec les athlètes russes. Regardez cette fausse vidéo qui est attribuée, mais qui n'est pas une vidéo de TF1. Donc là, il nous explique que les femmes ne pourront pas accoucher pendant les JO. Donc le but, c'est quoi ? C'est de montrer que la France...
Faire peur.
Faire peur ?
Faire peur, discréditer la France.
Oui, oui,
Je crois que non,
oui, fragiliser et puis essayer d'éviter, enfin, de perturber le flux touristique prévu pour les Jeux Olympiques. Mais souvenez-vous, pendant le Covid, en Russie, il y avait des vidéos qui annonçaient que, en fait, les responsables français, que les Français tuaient volontairement les personnes âgées dans les EHPAD. Bon. Mais vous voyez, là, on est circonscrit à la France et à l'Europe. Mais la désinformation est depuis des années. De la part de la Russie et de la Chine, elle est absolument partout. Mais regardez ce que la désinformation produite en Afrique par le groupe Wagner, qui a produit en fait des vidéos extrêmement bien faites, qui en fait mettent en scène des héros de Wagner qui arrivent pour sauver les Africains assassinés par les soldats français. Et ces vidéos, elles ont fait le tour de plusieurs pays africains. C'est super difficile de lutter.
Donc ça veut dire que, pardon de le dire comme ça, c'est cuit. Ça veut dire que s'il y a une offensive russe ou chinoise bien organisée de peser sur le scrutin des Européennes, on n'a pas les outils au niveau européen pour lutter contre ça, à part faire ce qu'on fait ce soir, c'est-à-dire communiquer et d'expliquer aux gens qu'il faut faire attention à ce qu'ils voient.
Oui, on a quand même des électeurs qui ne sont pas idiots aussi, et donc chaque fois qu'on les informe, ça fait réfléchir. Ce que vous faites très bien. Mais par exemple, en Afrique, on a fait des contre-vidéos.
Oui, absolument.
Avec parce que en plus, les cibles sont les enfants et les jeunes, comme toujours. Et donc, on a fait des contre-vidéos qui sont assez drôles aussi. On montre que des gentils Français viennent libérer les Africains de Wagner. Donc, on est un peu en retard, mais on a les moyens de répliquer. C'est pas trop tard. C'est jamais trop tard.
Le but, c'est notamment à l'occasion des JO, en fait, de provoquer une panique générale. C'est ce que craint le ministère de l'Intérieur, qui reconnaît que la difficulté d'informer les Français, c'est que c'est beaucoup plus dur de leur dire « attention, il y a une campagne de désinformation » que de dire « attention, il y a une urgence attentat parce qu'il y a des groupes terroristes islamiques qui menacent de faire exploser une bombe à tel endroit où c'est beaucoup plus concret dans la vie des gens et que cette menace est beaucoup plus, finalement, matériellement visible par les Français. » Ce que vous dit, par exemple, le ministre de l'Intérieur. Alors que ce serait tout aussi dévastateur d'avoir, par exemple, le jour de l'ouverture des Jeux Olympiques, un système de sécurité ou un système informatique de la police qui soit totalement en rade. C'est l'une des craintes, par exemple, du ministère de l'Intérieur. Des accès au site olympique qui soient totalement bloqués parce que, quand vous arrivez avec votre billet, finalement, on ne puisse plus le scanner. Et en fait, c'est ça aujourd'hui. C'est une logique de guerre par la désorganisation et la désinformation.
Le mot logique de guerre est intéressant parce que on dit c'est l'Ukraine qui est en guerre avec la Russie et l'Europe soutient l'Ukraine, mais l'Europe n'est pas en guerre contre la Russie. Pour les 2 ans de la guerre en Ukraine, j'étais à Kiev, j'ai discuté avec un responsable du service cyber, c'est-à-dire contre la désinformation en ligne, et il me disait, vous les Européens, vous ne vous en rendez pas compte, mais la Russie est déjà en guerre contre vous, elle mène une guerre en ligne. Et en fait, il appelait les Européens à la prise de conscience. Il y a sûrement une prise de conscience en ce moment, mais peut-être pas de l'ampleur de ce que c'est et de cette idée qu'on est déjà en guerre, mais une guerre qui se passe en ligne de manière assez invisible.
Mais qu'est-ce qui se passerait ? Qu'est-ce qui se passerait si le lendemain des élections, on se dit, bon bah, oups, il y a eu des ingérences, il y a eu des fake news, il y a eu une vague de deepfake, comme on dit, où on a fait dire à des responsables politiques ce qu'ils n'ont pas dit. Est-ce qu'il pourrait y avoir une contestation des scrutins ? Est-ce qu'on a un scénario du jour d'après ?
Non.
Non ?
Non, on n'a pas de scénario du jour d'après, parce qu'on essaie de l'éviter à tout prix. Et en réalité, le jour d'après, c'est très difficile à imaginer, parce que... il faut trouver les moyens juridiques de contester une élection. Là,
le bon exemple, c'est la première élection de Donald Trump. C'est-à-dire qu'après coup, il a été prouvé qu'il y avait eu beaucoup de manipulations en ligne, mais au final, on n'a pas annulé sa première élection.
Certains candidats, on l'a vu tout à l'heure, Raphaël Glucksmann, veulent se mettre en adéquation avec ce qu'ils disent, notamment sur la Chine pour le candidat de Place Publique et du Parti Socialiste. Il a quitté TikTok.
Tout à fait. Mais après, le problème, c'est que ils sont finalement en difficulté entre, d'un côté, l'équation est difficile, parce que c'est d'un côté dire « je veux me mettre en adéquation avec mes principes » et en même temps, je renonce de fait à parler à des millions de gens par ces réseaux-là, on disait, par exemple pour les jeunes, qui sont parmi les plus mobilisés sur ces réseaux sociaux-là. Donc lui l'a fait parce qu'il a fait, il en faut aussi un élément à juste titre, de communication et politique. Pour les autres, c'est beaucoup plus difficile de renoncer à cela. On viendra peut-être aussi à la question du Rassemblement National et de Jordan Bardella, qui possède des centaines de milliers d'abonnés sur l'ensemble de ses réseaux sociaux. Donc c'est toujours compliqué pour les candidats de dire « je vais renoncer à ce type de communication par principe politique et diplomatique », mais en même temps, je me prive de parler à ces électeurs-là.
Parce qu'ils considèrent qu'il y a une captation de données de la part de la Chine.
Également.
parce qu'ils considèrent que quoi ? Parce qu'il y a une instrumentalisation de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent.
Oui, et puis parce que Raphaël Glucksmann a fait aussi de son combat contre la Chine et en faveur des Ouïghours un élément constitutif de son ADN politique.
Est-ce que les démocraties sont en train de se réveiller quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, qui veut interdire TikTok, ou est-ce que c'est une guerre ? D'ailleurs, on va parler parce que ça faisait partie des propos d'Emmanuel Macron. Guerre économique entre les États-Unis et la Chine. Est-ce que ce qui nous attend, nous aussi, c'est-à-dire à un moment donné fermer des réseaux sociaux qui sont trop poreux aux puissances étrangères ?
Ouais, je pense qu'elle se réveille mollement, et pas seulement sur le cyber. Elle se réveille depuis 2 ans, c'est-à-dire que pendant 10 ans, on a fermé les yeux sur la menace russe. Ensuite, on a fermé les yeux sur la menace chinoise. Et on prend conscience au bout de 10 ans, quand vraiment la guerre est totale, qu'il y a la menace nucléaire de Vladimir Poutine, que bah non, finalement, c'est pas un bon gars et que ça sert à rien de discuter avec lui. Donc là, on prend des mesures, on commence à réarmer l'Europe, mais ça va très doucement. Là, aujourd'hui, on a ouvert les yeux sur la Chine, mais ça va doucement. Et le problème, là, c'est que, en fait, les démocraties, leur faille aussi, c'est que elles n'ont pas, comme les dictatures ou les régimes autocratiques chinois et russes, les mêmes moyens financiers, à moins qu'elles se mettent un jour d'accord entre Européens, ce qui est quand même assez laborieux, pour dépenser, en fait, une partie conséquente de leur budget...
Pour se défendre, y compris...
À la défense, et dans la défense, à l'attaque. C'est-à-dire que nous, on a un mode de vie qu'on préserve, qui est...
Il en a parlé, le président, aujourd'hui.
Avec un modèle social, avec de la culture, etc. Et c'est ce qui fait quand même l'ADN des Européens. Et il n'y a pas du tout ça. Donc, on a un peu les mains liées pour des raisons économiques et parce qu'on ne peut pas comme ça basculer sur un modèle qui est de la dictature, qui est effectivement beaucoup plus facile à faire. On n'a pas besoin d'avoir l'avis du peuple, on n'a pas besoin de... Vous voyez, donc voilà. Donc tout ça...
Donc ça veut dire, c'est bien, c'est pour ça que je vous posais la question, le principe même du vote démocratique ouvert, le principe même d'institutions européennes ouvertes, est remis en cause par ce dont nous discutons depuis le début de l'émission. C'est pour ça que je vous disais, c'est cuit, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut tout fermer et protéger ?
Non, c'est le but de ces tentatives de déstabilisation. Le but, c'est de nous discréditer, parce que le régime totalitaire russe est de plus en plus dur, les gens souffrent de plus en plus, et il faut leur vendre l'idée que les problèmes sont chez nous et pas chez eux. Et c'est une dictature, on a connu ça dans les années 30 du siècle précédent, une dictature totalitaire, monopolistique, avec un modèle qu'on veut imposer.
Et avec un mot qu'a utilisé tout à l'heure le président de la République, il a parlé du retour de la propagande. Et c'est sans doute à cela qu'il faisait référence. Vous vouliez ajouter quelque chose ?
Disons que ce modèle, il est très bien quand vous avez des démocraties libérales qui respectent les règles du jeu, mais en effet, ce modèle très ouvert, qui est très bien tant qu'on est entre humanistes et progressistes, entre guillemets, il peut être utilisé contre nous par des pays qui ne respectent pas ces règles du jeu démocratique. Et c'est tout le problème actuel, c'est comment on garde nos valeurs humanistes d'ouverture, de progrès, tout en créant des barrières pour éviter que ça soit retourné contre nous par des
autres. Et sortir de la naïveté, hein, c'est aussi ce qu'a dit tout à l'heure le président. Je voudrais qu'on vienne sur justement ce discours. 1h45, 1h50 hein, de discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne, avec la présentation d'une série de propositions, on va dire assez ambitieuses, pour relancer le projet européen pour une Europe qui, comme il dit, peut mourir d'elle-même. Ce sont les mots qu'il a utilisés. Création, par exemple, d'une défense commune, bouclier antimissile, choc d'investissement public, pacte de prospérité et lutte contre l'inflation des normes. Alors, ce qu'il faut retenir, avec Nicolas Bidart et Aurélie Saner.
À quelques semaines des élections européennes, Emmanuel Macron a choisi de parler d'Europe. Depuis la Sorbonne, un discours d'1h45 au ton alarmiste qui sonne comme une mise en garde.
Nous devons être lucides sur le fait que notre Europe, aujourd'hui, est mortelle. Elle peut mourir. Elle peut mourir, et cela dépend uniquement de nos choix. Mais ces choix sont à faire maintenant. Parce que c'est aujourd'hui que se joue la question de la paix et de la guerre sur notre continent, et de notre capacité à assurer notre sécurité ou pas.
Une allusion directe au scrutin du 9 juin, pour lequel la liste de la majorité est en grande difficulté dans les sondages par rapport au Rassemblement national. Alors le président de la République s'en prend aux nationalistes.
ils nous ont tous habitués à un discours qui est le 8 mai. Qui est dire, j'empoche tout ce que l'Europe a fait, mais je le ferai plus simple. Mais je le ferai en ne respectant pas les règles. Mais je le ferai, au fond, en bafouant ses fondements. Au fond, il ne propose plus de sortir de l'immeuble ou de l'abattre. Il propose juste de ne plus avoir de règles de copropriété, de ne plus investir, de ne plus payer le loyer. Et il dit, ça va marcher.
Et pour ne pas laisser le thème de l'immigration à l'extrême droite, Emmanuel Macron plaide pour une réponse ferme au niveau européen.
Et l'Europe puissance, c'est aussi une Europe qui maîtrise ses frontières. Ça passera par davantage de coopération avec les pays d'origine et de transit, des conditionnalités plus franches et une lutte sans relâche contre le modèle économique des passeurs et des trafiquants d'êtres humains.
La coopération doit aussi être militaire, selon le chef d'État français. Et cela passe par une stratégie de défense européenne.
Mais il nous faut donner un contenu à ce qu'est cette défense crédible de l'Europe, qui est la condition même pour rebâtir un cadre de sécurité commun. Est-ce que pour cela, il nous faut un bouclier antimissile ? Peut-être. Est-ce en augmentant nos capacités de défense ? Et lesquelles ? Sans doute. Est-ce suffisant face aux missiles russes ? Il nous faut travailler sur ce point.
Et pour prouver que l'Europe en serait capable, Emmanuel Macron vante les avancées effectuées ces dernières années.
Qui aurait cru que nous pourrions nous défaire de notre dépendance aux hydrocarbures russes, acheter en commun et réformer si vite notre marché de l'électricité ? Produire des vaccins en européen, sécuriser les approvisionnements et les distribuer partout en Europe. Nous l'avons fait. Qui aurait parié sur l'unité européenne dès le premier jour de l'agression russe en Ukraine et sur un soutien militaire massif de l'Union européenne ? Et nous l'avons fait.
Un président à l'offensive pour tenter de sauver son camp. Selon un récent sondage, 66% des Français estiment qu'Emmanuel Macron ne doit pas s'impliquer davantage dans la campagne des européennes.
Mais... Vous me disiez, Jean-Dominique Fulier, ça n'est pas un discours de politique intérieure. C'est un candidat qui est en campagne pour sauver son camp.
Non. Ah bon. C'était d'abord un discours, peut-être, mais ça c'est vous qui le direz. Moi, j'y ai vu un chef de l'État français qui s'adresse dans un message d'urgence aux Européens et à ses homologues qui sont complètement endormis face à l'urgence d'une réaction stratégique à ce qui se passe. Sur le plan de la défense, de la sécurité, on en a parlé. Sur le plan de l'économie, il y a tout un passage pour montrer qu'il faut changer de politique économique, de politique monétaire. Ça n'a rien à voir avec les élections, la politique monétaire. D'accord ? Sauf que peut-être si on changeait de politique, on arrêterait de décrocher par rapport aux grandes économies. Donc ce sont des propositions qui sont, ils vont directement s'adresser à l'Allemagne, à nos autres partenaires, qui trouvent de l'écho de plus en plus. Il est un peu en avance. On va avoir des réactions négatives, comme d'habitude. Et comme en 2017, petit à petit, les choses vont se faire, parce que l'Europe est obligée de réagir face à l'urgence des défis nouveaux qui lui sont lancés.
Guillaume Daret, ça n'est pas un discours politique.
Alors, un des proches conseillers du chef de l'État me disait ironiquement, avec sourire, cet après-midi, ce n'est pas un discours de campagne, c'est un discours pendant une campagne. Il ne se cachait pas qu'effectivement, c'était une façon de mobiliser aussi ses électeurs, parce que ce qu'assume le président de la République et son entourage, c'est ce discours qui était très nourri, assez long, près d'1h50, en disant... Eux estiment qu'il n'était pas trop long, parce qu'ils disent, on assume, c'est pas un discours qui était destiné à l'ensemble de l'opinion publique.
Ce conseiller me disait... Fait court, parle moins de 3 heures, voilà, c'est ce qu'ils lui disent.
Mais ce conseiller me disait, on sait bien qu'un jeudi à 11h du matin, il n'y a pas des millions de Français qui seront devant leur téléviseur pour écouter le président de la République. Donc c'est un discours qui se voulait d'abord à destination des Européens convaincus, de l'opinion pro-européenne, effectivement aussi à la destination... ni l'Élysée, des chefs d'État et de gouvernement du Conseil européen, et puis clairement aussi à destination de ses propres électeurs, parce que ce qui fait défaut aujourd'hui dans la campagne de la majorité, pour la liste de la majorité qui fait qu'elle est aussi basse, en tout cas dans les sondages, c'est la mobilisation. C'est pas tant que les électeurs d'Emmanuel Macron vont voter pour d'autres candidats, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde les sondages, il y a au maximum un électeur sur deux d'Emmanuel Macron lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, qui dit qu'il ira voter de façon certaine lors des élections européennes. Donc le premier message que veut faire passer quand même Emmanuel Macron à ses électeurs avec ce discours, c'est il faut vous déplacer. Le seul candidat pro-européen, la seule candidate pro-européenne, c'est la nôtre, c'est Valérie Ayer. Donc elle a besoin de votre soutien, il faut se déplacer. Donc c'était le message de mobilisation du président de la République. C'était quand même un discours de chef de campagne. Et d'ailleurs, il va continuer à s'impliquer. Dans son entourage, on n'exclut pas, par exemple, qu'il puisse faire un meeting, comme avait fait Nicolas Sarkozy lors de la campagne des européennes en 2009. Je peux vous dire qu'il a fait une photo en début de semaine. Il sera sur le programme de la liste de la majorité qui sera bientôt diffusée d'ici le 7 mai. Il y aura le visage d'Emmanuel Macron. Donc si ce n'est pas un discours de campagne, c'est quand même un président de la République qui est très investi dans une campagne.
Et la campagne qui n'a pas commencé.
Ah bon, bah, il faut qu'on...
La campagne officielle n'a pas commencé.
Il faut y aller quand même dans la campagne. Là. C'est...
Oui, c'est ça. Moi, je
bon, Marine Le Pen dit, Macron confond gesticulation et réalisation. Donc là, pour le coup, une opposition classique de la candidate Marine Le Pen.
Moi, j'ai fait pour un de vos confrères, hier, le bilan du discours de 2017. Et en toute objectivité, 80% des choses qu'il annonçait, qui étaient parfois déjà engagées, mais se sont réalisées. Un fonds européen de défense, une force de 5000 hommes qui est en cours de constitution, etc. etc. Un nouvel accord avec l'Allemagne, le traité d'Aix-la-Chapelle, etc. Il annonçait tout ça. Tout le monde a dit, mais bon, c'est encore les Français qui parlent. Et ça s'est fait.
D'accord, Jean-Dominique Giuliani, le RN est à 30%.
Oui, parce que, à mon avis, la campagne n'a pas commencé, on va voir.
Bon. Parce qu'il y a le sentiment aussi que rien ne peut... finalement, tout coule sur Jordan Bardella, c'est ce que vous dites. Ouais. Par exemple, les cadres du parti Renaissance qui sont derrière leur candidat Valérie, ils disent le problème, c'est qu'on a beau l'attaquer, tacler, on a le sentiment que ça ne change rien au sondage et à son possible résultat.
Et on reviendra sur le RN dans un instant. Vous disiez, il y a beaucoup de choses sur la partie économique. On parle de la Chine et de la Russie. Il a été question dans ce discours de deux grandes puissances qui se font une guerre commerciale et économique, qui sont la Chine et les États-Unis. Et la thèse du président de la République, je parle sous votre contrôle, était de dire, en gros, nous, on doit changer les règles du jeu parce que eux, eh bien, ils subventionnent leur économie et l'Europe doit faire davantage.
Oui, c'est ça.
C'était assez nouveau, ça.
C'était assez nouveau. Il a employé des mots très forts, le vocabulaire de l'enterrement, puisqu'il a dit « l'Europe peut mourir ». Et en fait, qu'est-ce qu'il enterre ? C'est l'Europe du XXe siècle, c'est-à-dire une Europe qui se disait « on est dans un monde où la concurrence est équitable au sein mondial, et notamment avec les États-Unis et la Chine ». En fait, il fait le constat que États-Unis comme Chine sur-subventionnent leur économie, ils dépensent énormément pour leur économie, alors qu'en Europe, l'économie est fondée sur un modèle où on dit « on contrôle les aides d'État parce que, attention, si quelqu'un dépense plus que l'autre, ça ne sera pas une concurrence équitable. On commerce avec les autres. » Et donc lui, il dit à ses partenaires européens, il faut vraiment passer à un nouveau monde beaucoup plus protectionniste. C'est pour ça que ça risque de faire débat, notamment avec l'Allemagne, les Pays-Bas, beaucoup de pays. Parce qu'il dit, on doit investir beaucoup plus, donc dépenser beaucoup plus d'argent public. Là aussi, ça va gêner les pays frugaux. Il dit, il faut revenir sur les règles de concurrence équitable dans certains secteurs, comme l'intelligence artificielle. Il dit, il faut une préférence européenne sur la défense.
Sur l'achat de matériel, notamment, elle évite des Allemands.
Quitte à changer les traités européens. Donc, c'est quand même des ambitions très, très fortes qui vont nécessiter beaucoup de services après-vente auprès des autres pays européens. Et son constat, c'est de dire, si on n'agit pas maintenant, on va droit dans le mur et on va se faire complètement surpasser par États-Unis.
Et avec des sujets qui concernent les gens qui nous regardent, quand il a parlé de l'appauvrissement. Oui. Des Européens par rapport à l'enrichissement des Américains.
C'est ça, c'est que ces dernières années, on a vu à quel point le sujet du pouvoir d'achat et de la précarité était important dans l'opinion publique. Et tout le monde a ce sentiment et ce regret du décrochage de l'économie européenne par rapport à l'économie américaine et par rapport à la Chine. Il y a tout... En fait, le constat est partagé. Mais aujourd'hui, en Europe, il y a un peu un désaccord sur qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il faut faire plus ?
Ouais. Ça rejoint la question de la dette. N'est-ce pas ? Les États-Unis, qui ont une croissance bien supérieure à la nôtre, il l'a cité ce matin, un PIB par habitant qui a presque doublé par rapport au nôtre, hein, soit plus 60% et nous plus 30%, et ça veut dire des salaires distribués, tout ça parce que c'est une politique économique et monétaire accommodante, où on déverse des tonnes et des milliards de dollars 34 000 milliards de dollars, c'est la dette américaine.
34 000 milliards de dollars.
Comparé à nos 3 000 milliards de dollars. Et donc, derrière tout ça, il y a aussi cette question-là. Il faut s'endetter pour se transformer.
Et il est en train de préparer l'idée qu'on va dire, en gros, on ne va pas rembourser la dette et on va continuer à emprunter.
Oui.
Voilà, c'est ça.
Ce qui était notable, c'est la volonté de créer un nouvel emprunt sur les questions de défense.
Et il n'est pas
dans
le seul
cette logique de dire, attention, on peut mourir, on doit continuer à lutter contre la Russie et faire face pour aider l'Ukraine. Il y a la création économiquement de ce nouvel emprunt.
Isabelle Asser.
C'est une des faiblesses, d'ailleurs, à mon avis, du discours. C'est que la France n'est pas vraiment en position économique d'imposer beaucoup de choses à ses partenaires. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est vrai que par rapport à la Sorbonne 1, pas mal de choses ont été appliquées. Mais la guerre en Ukraine a complètement donné raison non seulement à Emmanuel Macron, mais à l'idée française d'Europe de la défense, d'autonomie stratégique, quelle que soit la manière dont on la nomme. Et aujourd'hui, elle est en train, tout doucement, de se mettre en place. Et c'est ça qui donne, en fait, sa légitimité à Emmanuel Macron. C'est pas l'économie française. C'est le fait que, d'abord, la France a la dissuasion nucléaire. C'est la grande armée d'Europe, même si elle est plus petite qu'avant. Et c'est aussi cette capacité de projeter cette idée française. À l'inverse, l'Allemagne, qui avait toujours lutté contre cette idée française, son modèle à elle s'est effondré comme un soufflet. Il reposait sur trois jambes. La jambe américaine pour la sécurité, elle s'est effondrée. La jambe russe pour l'énergie, elle s'est effondrée. Et la jambe chinoise pour les relations commerciales, elle s'est aussi effondrée. Donc il n'y a plus de proposition allemande, en fait. L'Allemagne est nue aujourd'hui. Et c'est là que Emmanuel Macron avance son idée d'Europe puissance, qui est, à mon avis, une idée française, qui est tout à fait la bonne. Et il reprend, en plus, des idées qui sont celles de Kaya Kallas et de la République tchèque, etc. Le problème, après, c'est l'argent étant le nerf de la guerre. Oui. Comment on va financer tout ça ?
Raphaël Glucksmann, il n'est pas du tout d'accord avec vous. Oui. Il était en meeting la veille, évidemment en campagne, et il dit, il a tapé très largement sur la faillite, au contraire, sur la faillite stratégique d'Emmanuel Macron, en disant qu'en 2019, il avait largement appelé et plaidé pour un rapprochement entre l'Union européenne et la Russie, appelant à retrouver la confiance dans un ordre international en recomposition.
Ah, mais tout...
Donc, considérant que Emmanuel Macron a tout faux sur la stratégie.
Mais il s'est complètement trompé sur la Russie au début de son mandat, Emmanuel Macron. Absolument. Mais par ailleurs, il se trouve qu'il a changé. Alors, tardivement, on peut le regretter, mais ce qu'on peut noter aussi aujourd'hui, c'est que son changement le positionne aujourd'hui parmi les plus rigoureux.
Mais avec la possibilité de mettre en application ce qu'il dit, quand il dit il faut qu'on achète des armes en commun. En ce moment, là, ce sont les Allemands qui choisissent d'acheter du matériel américain. Quand il dit il faut une préférence européenne sur l'achat de matériel militaire, toutes ces choses-là, pourquoi est-ce qu'il arriverait à les faire passer ?
C'est vrai qu'il y a un vrai problème de crédibilité, c'est-à-dire à la fois sur l'envoi d'aide militaire à l'Ukraine. Les Européens reprochent à Macron de beaucoup parler, mais de ne pas assez faire, puisqu'il y a différents baromètres qui disent que la France envoie moins d'aide militaire que l'Allemagne, par exemple. Donc sur l'aide militaire, Macron est très martial, quitte à parler de la lâcheté des autres pays européens, et on lui reproche de parler beaucoup, mais de ne pas assez faire. Et sur le volet budgétaire également, Macron dit aux Européens « empruntez avec moi de nouveau de l'argent, 100 milliards d'euros ». Les autres lui disent « mais en fait, pourquoi tu nous demandes de faire ça ? Parce que les finances publiques de la France sont au plus mal, et donc pourquoi nous, Européens, laissez-moi finir, et pourquoi le déficit sera extrêmement élevé cette année, pourquoi nous, Européens, on devrait s'endetter ? C'est parce que vous, Français, vous n'avez pas assez mis en ordre vos finances publiques, et là aussi, la crédibilité d'Emmanuel Macron en matière économique est assez faible. Donc il y a ce paradoxe où d'un côté, il avait prévu l'autonomie stratégique, il avait prévu de nombreuses choses que l'Europe a faites, donc il y a un succès du bilan, mais d'un autre côté, la situation de la France actuelle en matière économique et de fourniture de défense à l'Ukraine fait qu'il a moins de crédibilité pour convaincre ses partenaires européens.
C'est pas ce que dit le président Zelensky.
Sur l'aide à l'Ukraine, ça a changé récemment.
Ce qu'on donne à l'Ukraine, on ne dit pas tout, n'est-ce pas ? Lorsque les missiles tombent sur la Crimée, etc., ils sont français ou britanniques, généralement, et ce sont les mêmes, d'ailleurs, les mêmes missiles. Non, il ne faut pas dire que nos finances publiques sont comme ça.
Il faut vous parler, Philippe, de certaines
Oui, mais je vais vous dire, le patrimoine de la France, c'est combien ? c'est 120 000 milliards d'euros. D'accord ? Donc 3 000 milliards de dettes, ça se résout par la croissance et pas par la rigueur. Parce que la rigueur, c'est moins de salaire. C'est la politique allemande du XXe siècle. C'est ça qu'il a dit ce matin. Il a été plus prudent que moi. Mais il a dit, il faut retrouver la croissance pour payer nos dettes, pour moins s'endetter. Et pour retrouver la croissance, il faut s'endetter pour investir.
Est-ce qu'il y avait des choses nouvelles sur la question de la défense, sur la façon dont il faut changer de braquet dans un monde désormais plus incertain? Isabelle Lasserre, je ne sais pas qui peut répondre
à cette question. La question de cet emprunt quand même pour financer l'armement est absolument... Enfin, elle a été évoquée ces dernières semaines, mais c'est quand même quelque chose d'absolument nouveau. Alors après, effectivement, il y a cette crédibilité française ou non en matière de finances publiques. Mais ça, c'est quand même.
En l'occurrence, c'est pas lui qui l'a. C'est Kaja Kallas.
Tout à fait, mais qu'il reprend.
Premier ministre d'Estonie qui avait proposé pour la.
Bon, il l'a repris, d'accord.
Voilà.
Et ça, ça fait partie des choses où effectivement, il se dit, pour l'instant, les gens n'en veulent pas, mais je vais mettre un coup de boutoir. Et comme l'endettement commun, il y a quelques années, avec qui avait COVID. Été finalement accepté par Angela Merkel au moment du Covid.
Il a parlé. Alors, il a utilisé beaucoup ce mot. Je savais pas que ça s'utilisait. D'intimité stratégique. Alors, il faut une intimité stratégique en Europe sur la diplomatie. Il faut une intimité stratégique sur les opérations militaires.
C'est un mot que Valéry Giscard d'Estaing avait expliqué dans sa relation avec Helmut Schmidt. Bon. Il avait dit qu'il faut être intime avec l'Allemagne parce qu'on a trop de différends et comme ça, on peut parler de tout. Et là, l'intimité, c'est l'initiative européenne d'intervention qu'il a lancée lui-même, alors la France, et qui permet aux militaires de
travailler
ensemble dans les états-majors. On a dans les états-majors français plein d'Européens, etc., etc. C'est ça son idée qu'il veut développer encore davantage.
Et qu'est-ce que les Français vont retenir, à votre avis ?
Non, pardon, sur la défense, la principale nouveauté, c'est qu'il a mentionné l'idée d'un bouclier de défense aérienne européenne en disant, en faut-il un, peut-être. Et donc, en matière de défense, c'est ce peut-être qui ouvre des possibilités.
Mais parce que les Allemands
c'est
le voulaient.
C'est une réponse à l'Allemagne,
C'est une réponse à l'Allemagne, une ouverture à l'Allemagne. Et sinon, il a réitéré sa vision de la défense, la dissuasion nucléaire française qui pourrait bénéficier à tout le monde.
Voilà, c'est une sorte de deal qui est en train, qui est possible.
Donc on vous prête la dissuasion nucléaire et on fait un bouclier européen tous ensemble.
Non, il faut reconnaître que nos partenaires européens reconnaissent que la dissuasion nucléaire française, qui reste française, contribue à la sécurité de l'Europe, est engagée à la sécurité de l'Europe, elle reste française. Et il faut faire très attention aux termes parce qu'après, elle n'est pas bradable, d'accord. Et en contrepartie, on veut bien étudier d'autres formules qui rassurent nos partenaires en matière de défense aérienne.
Allez, le président a ciblé les nationalistes, en particulier le Rassemblement national, qu'il n'a pas cité, mais qui caracole en tête des enquêtes d'opinion et les accuse de vouloir, on l'a entendu tout à l'heure, rester dans l'immeuble européen sans payer le loyer. Mais au-delà de l'offensive macroniste, ce sont parfois les recrutements internes issus de la société civile au sein du Rassemblement national qui gênent la campagne de Jordan Bardella. Magali Lacroze et Christophe Roquet.
Mathieu Vallée, on vous a connu aussi très bien sur ce plateau et sur la radio aussi en tant que porte-parole du syndicat des commissaires de police.
On m'avait souvent vu à la télé ou croisé dans la rue pour défendre nos forces de l'ordre, nos policiers.
En politique, une prise de guerre, quand elle se dévoile, doit avoir un effet surprise.
J'ai la fierté de rejoindre le grand mouvement populaire de Marine Le Pen et Jordan Bardella.
Mathieu Vallée, ancien commissaire de police, grand habitué des plateaux de télévision.
Quand on se touche à un policier, on doit forcément dormir en prison.
Oui, un atout médiatique venu de la société civile, le RN en raffole pour ses élections européennes.
Ça va ? Ça va. C'était très bien ce matin pour BFM.
Compliment du chef à l'ancien patron de Frontex, Fabrice Leggeri, nouveau venu dans la famille RN, et message de bienvenue à la tribune.
Fabrice Leggeri a vécu de l'intérieur. Les attaques des ONG pro-migrants, les pressions d'États inamicaux comme la Turquie devant lesquelles l'Union européenne s'est couchée depuis très longtemps. C'est parce qu'il refuse de se laisser faire qu'il a rejoint le Rassemblement national.
À peine propulsé numéro 3 de la liste RN que déjà les ennuis commencent pour cet ancien normalien et énarque à la tête de Frontex jusqu'à 2022. Le voilà soupçonné d'avoir facilité des refoulements illégaux de bateaux de migrants. Il est même visé par une plainte de deux ONG pour crimes contre l'humanité et complicité de torture. Alors, la prise de guerre peut-elle devenir embarrassante pour le RN ? Le principal intéressé s'en défend.
Et ça Il n'y a pas de revanche. Comme je le disais, je considère que je suis un lanceur d'alerte. Et ce qu'on m'a reproché, c'est que pour avoir voulu contrôler vraiment les frontières extérieures, eh bien, j'avais touché un tabou.
Un peu plus tôt, autre surprise, prise à droite. L'essayiste Malika Sorel, ancienne proche de François Fillon, reconnaissait finalement avoir d'abord sollicité le parti du président Emmanuel Macron avant d'atterrir au RN. Résultat, sur les plateaux télé, on ne lui parle que de ça.
Vous étiez prêt à travailler avec lui et vous nous expliquez aujourd'hui que le seul vote utile, c'est Marine Le Pen. On a
le
du mal à le suivre.
Mais que fait Emmanuel Macron? Il veut porter la République française. J'ai pas fait des propositions d'Emmanuel Macron au président de la République, ce n'est pas pareil. Je sers la France, je vous l'ai dit, je suis un soldat.
Ces derniers jours, l'une des nouvelles recrues RN a mis le parti dans l'embarras. Tout avait pourtant si bien commencé pour Saïd Ali Bouana Amissi, premier candidat mahorais sur une liste RN, soutenu par Marine Le Pen, venu spécialement en visite à Mayotte, subitement devenu infréquentable après avoir qualifié les migrants comoriens de vermine et de cafards.
C'est un candidat qui, d'ailleurs, c'est un monsieur qui était à la CGT, c'est monsieur Hamidi.
Là, c'est votre candidat.
Oui, il était. Il vient d'un autre univers politique, dans un contexte aussi très particulier. Moi, je suis pas fan de ce genre d'expression, encore une fois. Mais la liberté d'expression, elle est bordée par la loi dans notre pays.
Visiblement gênant. Le candidat décrit comme complotiste, sexiste, admirateur de Poutine par ses adversaires, est débarqué de la liste de Jordan Bardella, toujours largement en tête des intentions de vote selon les derniers sondages.
Guillaume Darès, ça ne gêne pas pour l'instant la campagne de Jordan Bardella.
Non, c'est bien le problème qu'ont les listes concurrentes du Rassemblement National, c'est que quoi que dise Jordan Bardella, quoi que fassent finalement les colistiers et colistières de Jordan Bardella, bah pour l'instant, ils caracolent en tête des sondages à 30-32%. Alors ça reste des sondages, il faut évidemment rester prudent. Alors moi, j'ai regardé il y a 5 ans lors des précédentes européennes. À un mois du scrutin, finalement, on était à peu près au résultat qui s'est retrouvé un mois après, d'accord, c'est-à-dire un Rassemblement national un peu plus d'un point devant la liste de la majorité.
Plus grave, peut-il le Rassemblement national être gêné par ce dont nous avons parlé au début de cette émission sur les tentatives d'ingérence et parfois même de corruption vis-à-vis de responsables et même de la tête de liste de l'AFD qui est un parti partenaire du Rassemblement national. Est-ce que ça peut gêner
la campagne ? Pour l'instant, ça ne prend pas, mais peut-être parce que les concurrents n'en parlent pas assez. C'est la volonté effectivement, que ce soit par exemple de François Xavier Bellamy ou encore de la liste Renaissance, c'est un de parler des dissonances entre les propositions faites par Jordan Bardella et les votes faits par son groupe au Parlement européen en disant « regardez, il y a quand même des choses extrêmement différentes » et de remettre une couche sur la proximité entre le Rassemblement national et la Russie en disant aux Français « attention », ce qu'avait dit d'ailleurs Valérie Ayer lors de son meeting d'investiture à Lille où elle avait dit « vous allez faire rentrer au Parlement européen finalement des gens qui sont sous influence russe. Donc, c'est la stratégie. Est-ce que ça va payer? Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais ils assument de continuer là-dessus.
Influence russe et chinoise hein, pour l'AFD, qui est un parti d'extrême droite allemand dont nous avons parlé tout à l'heure, Jean-Dominique Giuliani, sur le fait que cette affaire, ce Russiagate, Chinagate, puisse gêner la campagne du Rassemblement national. Vous ne croyez pas?
Joker sur l'aspect national. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau européen, il y a deux types de partis de droite ou souverainistes. Giorgia Meloni ne veut pas s'allier avec Le Pen, elle ne reçoit pas Jordan Bardella, elle est donc installée dans l'immeuble et elle paie le loyer, de qui d'ailleurs le lui rend bien en Italie, avec les Polonais, etc. Et que c'est la Russie qui fait la différence entre ces deux grands partis, identité et démocratie, celui auquel le Front National, le Rassemblement National se rallie, et l'autre ECR, les conservateurs et réformatistes et réformateurs européens, conservateurs, bon, qui eux sont, comment dirais-je, souverainistes, de temps en temps votent avec la majorité du Parlement européen, et donc il y a une césure qui peut effectivement avoir des impacts sur le plan national. On voit déjà qu'en Allemagne, l'AFD a baissé depuis cette affaire.
Ils ont perdu 5 points, vous me disiez ?
Oui, 5 points en quelques jours. Je vois que là, aujourd'hui, au Parlement européen, le Rassemblement national et Jordan Bardella n'ont pas voté la motion demandant d'enquêter sur les ingérences étrangères. Je ne suis pas sûr que ça plaise beaucoup aux Français et aux Allemands.
Oui, pour le Rassemblement national est dans une vraie stratégie de normalisation. Mais la casserole qui leur reste, leur boulet au pied, entre guillemets, c'est leur réputation pro-russe, dont ils auront du mal à se débarrasser. Et leurs adversaires vont évidemment utiliser ça comme argument contre eux. Et
par exemple, il a affirmé, Jordan Bardella, qu'aucun élu du Rassemblement national au Parlement européen n'avait été approché dans le cadre de ces tentatives d'ingérence.
Oui. Et par exemple, il y a une vraie question sur quand on connaîtra la liste complète du Rassemblement national. Est-ce que Thierry Mariani, qui est réputé très russophile, en fera partie? On verra ça normalement dans quelques semaines. Ce sera une vraie question de voir comment l'Assemblée nationale va, dans cette stratégie de normalisation qui explique qu'ils essayent de débaucher comme ça des espèces de prises de guerre pour, l'ancien directeur de Frontex, c'est quand même une personnalité au niveau européen. Comment vont-ils gérer le fait que, dans l'opinion publique, il y a ce constat que la Russie n'a pas des intérêts communs avec eux? Et est-ce qu'il est différencié au niveau européen des autres partis de droite nationaliste et radicale? C'est quand même cette réputation pro-russe qui fait qu'au niveau européen, ils ont moins de partenaires parce que beaucoup disent on ne veut pas travailler avec des gens qui sont réputés pro-russes. Et donc le Rassemblement national, paradoxalement, c'est un des partis qui est le plus le vent en poupe dans les sondages. On sait qu'ils vont avoir énormément d'eurodéputés, donc ça, ils auront un poids politique fort en nombre. Et pour autant, les autres partis hésitent à s'associer avec eux, voire ne veulent pas, parce qu'ils ont une réputation trop sulfureuse.
Cette question, oui, allez-y.
Moi, je rajouterais deux choses. Aux États-Unis, jusque-là, les casseroles de Trump n'ont pas eu d'effet sur sa popularité et sur les sondages. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'en fait, l'Italie n'est pas la France. Et autant la conversion de Madame Meloni à un pro-ukrainisme et à une position dure vis-à-vis de Vladimir Poutine n'a pas du tout choqué les Italiens. Pourquoi ? Parce que l'Italie est un pays qui est tourné vers les États-Unis. Elle est très attachée à la relation transatlantique. Autant en France, je ne suis pas sûre que le maintien de la politique pro-russe nuise au Rassemblement national. Parce que simplement, je pense qu'il y a un lectorat en France, à droite et à l'extrême gauche. D'ailleurs, enfin, l'extrême gauche ne va pas voter pour le Rassemblement national, mais il y a un public pour cette position en France.
Fred, dans la Loire, le vrai risque pour l'élection européenne, n'est-il pas plutôt que les électeurs ne perçoivent pas l'importance de l'enjeu ? Est-ce que ça, c'est un risque, une participation qui serait en dessous de ce qu'on en attend
et... Vlad le dirait mieux que moi, mais il y a de plus en plus d'importance, d'enjeux au Parlement européen. Ouais. D'enjeux législatifs, réglementaires, on en a un énorme. Doit-on réglementer à outrance? On est en train de faire marche arrière sur l'agriculture, etc. Donc on a vraiment un Parlement qui a des pouvoirs.
De plus en plus de pouvoirs.
Et en France, on le sous-estime.
Il y a de plus en plus, c'est le vrai paradoxe, de plus en plus de compétences, de pouvoirs à Bruxelles et à Strasbourg. Et pour autant, les élections européennes restent interprétées comme des élections nationales. La participation est attendue à 40%. Et donc c'est le paradoxe actuel, c'est en effet il y a des enjeux énormes puisque aujourd'hui la plupart des réglementations les plus importantes sont d'abord décidées à Bruxelles et déclinées en France et pour autant l'élection européenne a un taux de participation qui est le plus faible.
Et nous revenons maintenant à vos questions. Cette question d'Alain, l'AFD en Allemagne sera-t-elle seule concernée par ce réseau d'espionnage ? Pour l'instant c'est le cas.
Pour l'instant, oui. L'enquête qui est en cours concerne...
C'est vraiment de l'espionnage, parce que les amis des Russes, on les connaît. C'est le président allemand, Steinmeier, c'est l'ancien...
Schröder,
etc. Ils sont vraiment des amis déclarés.
C'est un peu différent, ce dont on parlait au début de l'émission vis-à-vis de l'AFD. Le chef de file de l'AFD a été entendu par le FBI... soupçonné d'avoir été rémunéré.
Par le FBI ou bien par les services
à... par le FBI aussi. Également, au mois de décembre.
D'accord.
Soupçonné d'avoir pris de l'argent. Donc là, pour le coup, c'est pas simplement de l'influence, mais de la corruption. Pourquoi des personnes d'extrême droite collaboreraient-elles avec un pays dit communiste ?
Parce qu'il n'est plus communiste.
Il ne l'est plus. Bon. Allez, la Russie ou la Chine peuvent-elles truquer les résultats des élections européennes à venir ?
Truquer, non. Mais ce qu'on disait tout à l'heure, c'est créer un climat favorable à un vote qui leur semble souhaitable.
Par exemple ?
En faveur de l'extrême droite, ce qu'on disait, des mouvements à travers des fausses informations, des montages vidéo qui, à quelques jours du vote, déplacent 3-4 points. ridiculise un candidat, montre une fausse déclaration d'un candidat qui n'a pas été prononcé le jeudi soir. Et nous, finalement, on se trouve, médias traditionnels, vous savez, bloqués aussi par la régulation du temps de parole. C'est-à-dire que le vendredi à minuit, c'est terminé. Qu'est-ce qui se passe si sur les réseaux sociaux, le samedi à 14 ou 15 heures, vous avez une vidéo virale sur tel ou tel candidat qui commence à circuler, alors que nous, médias traditionnels, France 2, TF1 ou autres, on ne peut plus donner la parole à ces candidats. Ça devient effectivement un vrai enjeu et ça montre peut-être le fait qu'aujourd'hui on est en décalage total avec ces pratiques pour lutter contre cette désinformation.
Ça veut dire qu'aucun candidat ne pourra prendre la parole au lendemain de cette vidéo pour dire que ça n'est pas vrai.
Actuellement, que ce soit pour une élection présidentielle ou une élection européenne, le vendredi à minuit, l'élection, la campagne en tout cas, est terminée et on ne peut plus donner la parole aux candidats avant le résultat le dimanche soir à 20h.
Mon grand-père disait, c'est vrai, c'est écrit dans le journal, faut-il dire aujourd'hui, c'est faux, c'est sur Internet.
C'est un peu exagéré, mais il y a un vrai problème, d'ailleurs traité encore ce matin, et même de plus en plus publiquement, même à la faculté, où on n'apprend plus à écrire autrement que sous la forme de SMS, etc. Donc on a un vrai problème avec Internet qu'on ne maîtrise
pas. Et il a été évoqué aussi dans le discours du jour sur la majorité à 15 ans pour l'accès. Non,
est-ce que vous enverriez vos enfants dans la jungle? Façon de faire une métaphore sur la jungle numérique, c'était vraiment la volonté de dire non, vous ne le feriez pas, bah, vous ne laissez pas les téléphones et les tablettes à vos enfants en dessous de 15 ans.
Les tentatives d'ingérence vont-elles se multiplier dans les prochaines semaines?
Oui, dans les prochaines semaines, avant les élections européennes, mais aussi jusqu'aux Jeux Olympiques.
Ah oui.
Ce sont les deux cibles des ingérences.
Pourquoi autant de Français critiquent-ils l'Europe? Que lui reproche-t-il? Pourquoi les avantages qu'elle apporte ne sont-ils pas expliqués? Oui, ça aussi, il en a parlé. Il a dit c'est une Europe qui ne s'aime pas.
Oui, absolument. Il a cité un philosophe allemand.
Oui, c'est le problème éternel où les responsables politiques sont probablement aussi un peu concernés. C'est-à-dire que la facilité, c'est de dire toutes les normes viennent de Bruxelles. Et par contre, quand l'Europe distribue de l'argent, par exemple, sur la politique agricole commune, on ne va pas forcément dire que c'est de l'argent européen. Le plan de relance européen, c'est un très bon exemple. Tout le monde a vu dans sa région des panneaux « la région finance ces emplois-là, ce nouveau projet ». En fait, ce n'était pas la région, c'était l'Europe. Donc quand il y a des bénéfices, on n'en parle pas parce que voilà. Et par contre, dès qu'il y a des contraintes, et c'est vrai que l'Europe a beaucoup trop mis de réglementation, on sait que c'est...
Ça a été un axe du discours, hein, la réglementation, notamment sur la partie économique, en disant ça, c'est plus possible.
Quoi. Finalement, il tire un même fil qui est celui de la simplification. Simplification au niveau français, on l'a vu porté par Bruno Le Maire en début de semaine. Simplification au niveau européen. Simplification pour être mieux compris des Français, on sent. C'est là-dessus que veut aller le président de la République.
Il y a une autre réponse aussi, complémentaire à votre question. Pourquoi les Français n'aiment pas l'Europe? C'est parce que d'abord, ils ne la comprennent pas ou ils ne la connaissent pas. Je vois qu'il y a une tribune de 50 personnalités qui protestent contre le fédéralisme européen. Et en réalité, les décisions européennes, elles sont prises par les États. Et d'ailleurs, les réglementations, elles sont faites dans nos ministères et on les envoie ensuite à Bruxelles et Strasbourg. Et là, on double, n'est-ce pas? Chacun en rajoute. Donc, en réalité, c'est un mécontentement à l'égard des politiques publiques en général. Oui. Et de l'Europe en particulier, et comme il est plus pratique de s'adresser à celui qui est le plus loin pour le critiquer.
Il y a eu des erreurs, on ne va pas faire de débat, faites
absolument.
Par l'Europe vis-à-vis des populations.
Aussi.
Allez, ce discours d'Emmanuel Macron lance-t-il la campagne électorale des européennes?
La réponse est oui.
La réponse est oui.
On disait, il y avait énormément de choses, et le pari du président de la République, c'est que finalement, il y a des éléments comme cette minorité numérique ou autre qui puissent vivre dans les semaines à venir. Le risque, on le disait, c'est parfois que ça puisse être un vote sanction, parce qu'on le voit, Jordan Bardella, on en parlait un instant. Qu'est-ce qu'il demande au lendemain des élections européennes? Il dit, si j'arrive en tête, si le Rassemblement national arrive en tête, je demanderai la dissolution de l'Assemblée nationale. Ouais. C'est pas du tout la conséquence normalement d'élections européennes.
Allez, une élection peut-elle être annulée si les résultats sont faussés par une action étrangère frauduleuse? Tout à l'heure, vous avez répondu à cette question.
J'imagine que ça dépend de la
fraude.
De la fraude, de son intensité et de la manière qu'on a de la prouver.
Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain en direct dès 17h30.
Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv, bien évidemment. À bientôt.